Bonjour à tous et bienvenue dans cette chronique boursière. Nous sommes le 18 septembre 2017. Alors je me souviens, il y a un peu moins de 2 ans, au mois de février 2016, le marché chutait comme une pierre et nous jouions dangereusement avec les 1800 points sur le S&P 500 à New York. En ce temps-là, bien des intervenants étaient archi convaincus de la fin très proche du bull market né durant un mois de février également, mais en 2009. Cela semblait même carrément parfait puisque ça tombait pile poil 7 ans plus tard, et 7 ans pour un bull market, ça fait quand même super long. Il était donc facile de faire des prévisions catastrophiques et même le support technique évident des 1800 ne pouvait donc pas suffire à inverser la tendance. La fin était proche. Fast forward, 19 mois plus tard, le même S&P 500 vient de terminer sa semaine au plus haut de tous les temps, à 2500. Ça ne veut rien dire, mais symboliquement, ce n'est pas rien. Nous sommes 700 points plus haut que ce fameux mois de février 2016 où la fin était proche. Et pourtant, nous sommes toujours dans une espèce de mood où nous passons notre temps à scanner le marché pour trouver la raison pour laquelle ça devrait baisser, parce que là, quand même, on est trop haut, trop cher et plus rien ne justifie de continuer plus haut. La plupart des gourous sont déjà venus à la télé pour nous mettre en garde. Je crois qu'il n'y a plus un stratégiste connu dans son quartier qui n'a pas encore passé sur CNBC ou Bloomberg TV pour nous prévenir qu'on allait se la prendre et qu'il n'y avait plus rien à attendre. Kim Jong-un ou Rocketman, comme Trump vient de le surnommer sur Twitter, histoire de montrer comment la diplomatie internationale vole haut en 2017, nous fournit de temps en temps une certaine instabilité dans les marchés, mais une instabilité de moins en moins suffisante pour nous permettre d'acheter sur faiblesse. Bien des gérants de fortune ont anticipé la correction inévitable à venir et ont déjà réduit leurs expositions et augmenté leur niveau de cash. Tout le monde est prêt pour la suite, mais ça ne baisse pas. Au contraire, on bat des records. Et à chaque fois, à chaque nouveau record, on vient nous dire que c'est pas possible, ça peut pas durer. Et plus ça monte, moins on est convaincu que ça peut monter. Plus j'observe ce marché depuis derrière mon écran, plus je me dis qu'on souffre encore du syndrome 2007-2008. Ça a fait tellement mal à cette époque que l'on ne veut surtout plus se faire reprendre dans une spirale douloureuse comme celle de l'époque. Du coup, on applique la théorie du risque minimal et on se protège contre toute correction, sauf que pendant ce temps, ça monte. Gentiment, mais ça monte. Nous sommes 38% plus haut qu'en février 2016. 38% plus haut, et on continue de nous dire que ça ne va pas et que ça ne peut pas durer. Et pourtant, ça dure. Cela fait un moment, et je l'ai souvent exprimé dans cette chronique, que je me dis que tant que l'on criera au loup en essayant de nous prédire l'heure exacte de la prochaine correction, on ne baissera pas. En revanche, quand on finira par avoir une vraie euphorie et que tout le monde paniquera dans tous les sens pour acheter des actions, alors là, à ce moment très précis, je commencerai à avoir des doutes. Mais si l'on continue à venir à la télé pour nous prédire la fin du monde, je continuerai à dire que l'on va aller à 3000 sur le S&P avant d'aller ailleurs. La semaine se sera donc terminée sur une note euphorique. La livre sterling casse à la hausse parce que l'on parle de hausse des taux en Angleterre et ça pèse sur les marchés boursiers locaux. L'euro dollar est toujours une préoccupation majeure pour les places boursières européennes et Draghi est toujours en mode « on va bientôt resserrer les boulons » et les marchés européens se sentent moins à l'aise pour tenter de monter. Mais en attendant, c'est aux USA que ça se passe. Les indices terminent au plus haut parce que tout le monde s'en fout de Rocketman, que l'économie n'est pas au top, mais que ça va quand même. Les intervenants continuent d'empiler des positions dans les secteurs qui cartonnent. Les semi-conducteurs, pour ne pas le citer. L'indice irrelaté vient d'aligner sa 5e séance de hausse consécutive et termine au plus haut de tous les temps. Quand on sait que cet indice sectoriel est souvent considéré comme un indicateur avancé, on peut se dire que la fin n'est peut-être pas pour tout de suite. Aujourd'hui, les regards sont tournés vers la Fed qui se réunit cette semaine. Les experts pensent que c'est la clé pour la suite des opérations. Les mêmes experts qui pensaient que la fin était proche en 2016, ils s'attendent donc à que Yellen ne fasse rien au niveau des taux cette semaine. Si le contraire se produisait, ça serait vraiment une surprise. Mais en revanche, elle pourrait donner des indications sur le comment et le quand au sujet de la réduction du bilan de la Banque centrale américaine. Tout de même un challenge de 4,5 trillions qu'il faudra faire avaler aux investisseurs. La patronne de la Fed devrait donc donner des détails sur son plan de réduction et certains s'attendent à que cela pèse sur le marché. Encore une fois, ça ne suffira pas. Les lieux communs qui nous garantissent une correction ne fonctionnent plus. Les gens sont sous-investis, tout le monde est prêt pour une correction, tellement que personne n'achète même des options pour se protéger. Ils n'ont rien à protéger. La volatilité est donc au plus bas de tous les temps et tout le monde s'en fout. Nous voici donc à l'aube d'une nouvelle semaine. Les futurs sont déjà en hausse de 0,3% et laisse présager du fait que ça pourrait continuer de monter. En attendant, on va regarder la Fed, regarder les discussions tweeto-diplomatico-onusiennes entre Kim Donald et l'ambassadrice américaine à l'ONU qui vient de déclarer que si la Corée du Nord les cherchait, elle serait détruite. On sent que la diplomatie mondiale est vraiment à son apogée. Et pour le reste, on regardera s'il y a de l'inflation, des takeovers. De ce côté-là, il y a Northrop Grumman qui serait sur le point de racheter Orbital pour 7 milliards, soit 10% de prime par rapport au prix de vendredi. Et puis on suivra aussi attentivement ce que pourrait faire ou pourrait ne pas faire Kim Jong-un, même si tirer des missiles au-dessus du Japon ne fait plus rien à personne et qu'il va falloir trouver mieux pour générer le moindre intérêt. La dette du Portugal a été ramenée sur Investment Grade par S&P ce matin. Ce matin aussi, le Japon est fermé pour cause de jours fériés, mais le reste monte. L'indice MSCI Asia-Pacifique, qui, comme son nom l'indique, couvre l'Asie et le Pacifique, vient d'atteindre des niveaux plus vus depuis 10 ans, et ce malgré l'autre cinglé qui agite des bombes nucléaires à tout va. L'or est à 1321, il baisse lentement parce que tout va bien. Le pétrole s'établit discrètement au-dessus des $50, et le Bitcoin, qui a tout de même touché les $3000 ce week-end, remonte comme une fusée et frise les 3800 ce matin. Je ne vous refais pas le discours habituel sur le Bitcoin, mais ça reste quand même un sacré Muppet Show. Côté chiffres économiques, nous aurons le trade balance en Italie, pour autant que quelqu'un s'y intéresse. Il y aura aussi le CPI en Europe et Carney, le patron de la Banque d'Angleterre, qui parlera. D'habitude, on s'en fiche complètement, mais comme depuis une semaine, il parle de monter les taux en Angleterre, soudainement, il devient aussi important que Kim Jong-un. En ce qui me concerne, je vous souhaite donc un très bon début de semaine et on se retrouve demain pour voir ce que l'avenir nous réserve et voir si le crash est vraiment à nos portes, comme tout le monde le dit. Bon lundi, bonne journée et à demain.